J'ai choisi de vous présenter le livre La vie des formes, écrit par Henri Faucillon en 1934. Cet auteur n'est pas extrêmement connu, il est d'abord historien de l'art avant d'être philosophe. Cet ouvrage est son œuvre la plus connue, et également la plus portée sur la philosophie plutôt que la théorie artistique. À travers 5 chapitres différents, Henri Faucillon dépeint la forme elle-même de l'œuvre artistique, de sa propre conception à son interprétation. Il montre comment elle se construit selon l'artiste, selon son espace, sa matière et son spectateur. Il s'appuie surtout sur des arts matériels, c'est-à-dire la peinture, la sculpture, l'architecture ou encore la gravure. La première partie s'intitule « La vie des formes ». Il y fait une introduction sur le terme de forme et son rapport à l'homme et au temps. La forme s'abreuve des contenus que lui donnent les artistes et les hommes, puis se change en plein de signes que le spectateur interprète selon beaucoup de facteurs différents. On peut donc lire une œuvre d'art de plusieurs manières, qui nourrissent l'œuvre et qui renouvellent sa forme. Cela amène l'auteur à la définition de style, en différenciant le style et un style. Le style de l'art est absolu, il a une valeur éternelle et représente un point immuable dans le passé. Un style est lui variable, il se fait, se défait, au service des formes et des interprétations de l'homme. L'auteur fait alors intervenir le terme de technique, une action sur la matière qui fait partie intégrante de l'œuvre et qui est forme elle-même. Faucillon montre que si l'œuvre d'art est à la fois unique, mais à la fois vecteur d'une linguistique universelle, c'est grâce au style, à la technique et à la nature de l'homme qui la crée et qui la regarde. On peut faire un lien avec la conférence sur Hannah Arendt qui montre que le propre de l'œuvre d'art, c'est d'être unique. La deuxième partie s'intéresse aux formes dans l'espace. L'espace où se meut la forme fait partie de l'œuvre. L'architecture, la sculpture, la mode et même la peinture utilisent d'une certaine manière l'espace de ces formes. Dans cette partie, Faucillon s'intéresse plus particulièrement aux spécificités de l'architecture. En effet, l'architecture se place dans un plan à 3 dimensions et est donc composée d'un espace intérieur et d'une masse extérieure. L'architecture s'approprie et travaille l'espace de dehors, mais également du dedans. Intervient également la lumière, qui elle-même travaille l'espace et modèle les bâtiments. Elle devient forme elle-même. L'espace peut alors être pensé de 2 manières. Soit l'espace limite la matière, la forme le remplit mais ne le dépasse pas. Soit l'espace est le milieu de la forme, il laisse le volume s'y déployer. Dans la troisième partie, intitulée Forme dans la matière, l'auteur montre que l'art n'est pas que géométrie, mais aussi poids, densité, lumière ou couleur. Il montre que les antinomies installées dans la culture, qui opposent forme au fond, ou esprit et matière, ne sont pas correctes et qu'elles bloquent la réflexion philosophique et artistique. Il compare alors les sciences et l'art, et notamment les théories scientifiques, où l'on retrouve certaines idées de Popper. Faucillon attribue à l'art le terme de science d'observation, comme pourrait l'être la biologie ou la chimie. Une théorie artistique, où le développement d'une forme, se fait grâce à des expériences, approuvées ou non. Les matières artistiques s'éloignent des matières naturelles, les transforment, mais en gardent certaines propriétés. On peut relier ça à la technique et aux problèmes de technique imposés à l'artiste par la matière. La technique est ici le processus de l'œuvre d'art. C'est une notion active et vivante qui évolue et qui fait évoluer l'artiste et son œuvre. L'œuvre d'art n'est donc pas un point précis dans le temps. Elle est un mouvement, une évolution, et dans ce sens, on ne peut pas détacher l'œuvre de son artiste, du reste de son œuvre, de son temps, de ses esquisses ou de sa technique. Les formes ne peuvent être réfléchies que si l'on s'intéresse à l'esprit qui les crée et les observe. L'auteur se pose la question, les formes ne vivent-elles pas d'abord dans l'esprit? L'auteur engage une réflexion sur le rêve, où il montre l'aspect instable, soumis aux errances de l'esprit, de ce à quoi l'on pense. Le rêve et la réalité diffèrent beaucoup par ce point. Ainsi, par l'imagination ou par le rêve, on peut concevoir une œuvre dans notre esprit, mais également, comme dans un rêve, les formes ne sont pas stables, changent de texture, d'espace, de taille. L'esprit les rend variables. L'œuvre d'art se fait alors que lorsqu'elle devient extérieure, qu'elle se concrétise en dehors de notre esprit. Dans ce sens, l'auteur différencie la vie des formes et la vie des idées. Enfin, dans la dernière partie de cet ouvrage, Faucillon s'intéresse aux formes par rapport au temps. Comme Hannah Arendt, il montre qu'une œuvre d'art est avant tout intemporelle. Bien qu'on puisse la penser comme reliée au temps par le moment de sa finalisation, elle continue de changer, de se métamorphoser avec le temps, avant et après sa création, la forme est plus l'espace que le temps. Faucillon se place plutôt en historien de l'art et réfléchit sur le temps et sur son impact sur l'art. Il personnifie le siècle, lui donne une enfance, une jeunesse et une décrépitude qui affectent forcément le style et les formes qui lui sont rattachées. Néanmoins, quand on étudie l'histoire d'une œuvre, d'autres aspects sont mis en jeu. Il y a également le lieu, le milieu social, les influences étrangères, les expériences de l'artiste. L'œuvre d'art est donc l'accord de plusieurs moments, du moment de la race, du milieu et de la vie humaine. Mais l'auteur soulève un paradoxe. Bien que ce facteur impacte beaucoup l'œuvre d'art, l'artiste a souvent cherché à se détacher du monde. C'est d'ailleurs pour cela que les œuvres, en leur temps, ne sont pas forcément au goût de la majorité. Ce livre décrit donc la vie des formes et de ce qui fait l'art, et pourquoi l'œuvre d'art est unique, intemporelle et si libre.